Carnet de région.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Le Gard.
Aude.
Lozère.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce carnet de région. Au sommaire de ce journal, 6 mois après l'élection de François Hollande, difficile de convaincre les élus concernés par le cumul de mandats. Exemple avec Christian Bourquin, président du conseil régional du Languedoc-Roussillon et sénateur des Pyrénées-Orientales, qui refuse d'abandonner un de ses 2 mandats. Inquiétude des viticulteurs au sujet de la libéralisation des vignes voulue par l'Union européenne à l'horizon 2016, témoignage de Philippe Pibarro, le président de la Fédération des vignerons indépendants du Gard. Être jeune en milieu rural, créer, s'installer et vivre sur des métiers d'avenir, c'est l'objectif qu'ont voulu démontrer de jeunes lausériens et de jeunes suédois avec le projet européen « C'est comment ici ?», créateur d'activités en milieu rural, les jeunes en action. Nous irons dans un petit village de 150 habitants dans le Gard, à Moressargues, pour parler d'un phénomène qui se répand un peu partout en France, les écoquartiers. Retour dans ce carnet de région sur le 7e festival des voix du film d'animation qui s'est tenu à Port-le-Cat dans l'Aude la semaine dernière, le festival Voix d'étoiles. Et puis nous parlerons de la Maman des poissons. Certes une chanson de Bobby Lapointe, mais aussi un festival qui met à l'honneur à partir de lundi prochain la littérature jeunesse, et c'est dans l'Hérault, à Pézenas. Je ferai voter une loi sur le non-cumul des mandats. Déclaration de François Hollande en date du 26 janvier 2012, à l'époque candidat à l'élection présidentielle. 6 mois après son élection, le chef de l'État peine à faire passer cette mesure auprès des principaux concernés. Exemple avec Christian Bourquin, sénateur des Pyrénées-Orientales, président du conseil régional du Languedoc-Roussillon. Il a succédé à Georges Frêche et il refuse clairement d'abandonner un de ses 2 mandats. Propos recueillis par Isabelle Bourdet de Radio Pays d'Hérault.
Abandonner tout de suite, il n'en est pas question, madame. Je viens d'être élu sénateur il y a 1 an. Je suis élu à la région depuis 2 ans. Je vais vous dire, c'est un honneur d'avoir la confiance de nos concitoyens sur un vote. C'est des mandats qui durent 6 ans et je continuerai de ce côté-là. Il faut respecter la démocratie, il faut respecter la confiance du peuple. Quand vous avez cette confiance, c'est énorme. Ce qui est exact, c'est que nous devons tendre vers un non-cumul des mandats dans l'organisation de notre société. Mais pourquoi aujourd'hui y a-t-il du cumul des mandats? C'est simple. C'est que nous avons une société qui est très jacobine. Elle est organisée autour de Paris. Les principales décisions se prennent à Paris. Toutes les décisions se prennent à Paris. Parce qu'on ne peut pas comme ça détruire l'organisation de la France. Il faut la construire avec la décentralisation et avec le statut de l'élu. Saint-Coigard, on s'attaque à la démocratie. Martine Aubry s'est attaquée au parlementarisme, c'est-à-dire elle veut détruire le Parlement. Si on veut des sénateurs et des députés hors sol, je veux dire par là qui n'ont pas d'ancrage local, si on veut que ce soit chaque parti à partir de leurs énarques qui fassent des listes et qu'on vote pour, je crois que ça, ce serait la fin totale d'un grand pan de notre démocratie, de la 5e République en France, et ça, j'en veux pas. Et donc, vous voyez, moi, je fais des propositions constructives pour aller vers une représentation multiple de nos mandats. Ça ne me pose pas de problème qu'on aille vers le non-cumul, mais en construisant, pas en détruisant.
Christian Bourquin, actuel président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, sénateur des Pyrénées-Orientales, qui propose notamment de revoir le statut de l'élu. Pour l'instant, aucune loi sur le non-cumul des mandats sous l'ère François Hollande n'a été votée. C'est un sujet qui inquiète une partie du monde viticole. Selon une directive européenne, la libéralisation de la gestion des vignes aurait lieu en Europe en 2016. 16 États, avec au premier rang desquels la France, soutiennent les viticulteurs en colère et opposés à cette directive, mais à laquelle sont favorables les négociants tels que l'Association générale des entreprises vinicoles et le Comité européen des entreprises de vin. Les professionnels de la production de la vigne, eux, ne sont pas d'accord. Écoutons Philippe Pibarro, le président de la Fédération des vignerons indépendants gardois, joint au téléphone par Cédric Combé d'RCF Maguelonero.
On est un petit peu contre cette directive parce qu'elle nous paraît tomber du ciel et
et avoir des conséquences assez néfastes pour notre métier. Maintenant, je pense qu'il faut la regarder de plus près et on peut peut-être avoir un autre regard sur cette directive-là. La peur que l'on a, c'est que s'il n'y a plus de régulation de droits de plantation, ils se plantent des vignes à tout va, le marché soit avec une offre importante et les prix à la baisse. Bon, c'est une désorganisation complète du marché. Les droits de plantation permettent de réguler le potentiel de production de vin. Donc la crainte, c'est qu'il n'y a plus de régulateurs, donc la production augmente et les prix se cassent la gueule, et puis voilà quoi. À côté de ça, il y a peut-être une autre vision qui peut être celle d'une consommation de vin mondial qui est en augmentation. Et selon certains rapports, d'ici 2, 3 ou 4, 5 ans, j'ai plus les dates en tête, mais la production sera inférieure à la demande, si on en reste à la production d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut augmenter la production. Donc, pourquoi ne pas, en libéralisant les droits de plantation, se permettre de se doter d'un outil de production qui puisse faire face à cette future demande? Mais par contre, il faut, en face de cette libéralisation des droits de plantation, mettre un outil de régularisation de la production. Ne pas avoir la possibilité de produire des volumes de vin excessifs qui reviendraient à la même chose, à se casser la gueule.
Alors, Philippe Pibarot, il y a la régulation, mais également, il faut privilégier tout de même la qualité du vin.
Complètement. Ouais, complètement. De toute façon, il y a des zones. Il y a des zones AOC en France qui ne sont pas extensibles, qui existent et qui sont délimitées. Ce n'est pas parce que les droits de plantation vont être libres que ces zones vont augmenter. Bien au contraire, elles vont rester figées et puis il y aura peut-être des dérogations, mais l'INAO qui gère ça est très attentif à ça et ça prend des années, etc. Donc les zones à un fort potentiel vin de qualité ne vont pas augmenter. Ça va rester les mêmes. Après, il va se planter. Peut-être des vignes dans des zones de plaine avec assez riches où ils vont pouvoir produire assez de volume, sur des marchés de marque et des marchés mondiaux. C'est, à mon avis, c'est pas des marchés de qualité. C'est sûr que là, il y a le danger d'associer la France à ce type de vin-là et c'est pas très bon pour l'image du vin français,
Enfin, sachez qu'une mobilisation nationale est prévue le 11 décembre prochain pour protester contre cette libéralisation des vignes avec tous les acteurs hostiles à ce projet, dont l'objectif est de mobiliser, faire réagir le public, la presse et les ministres, ainsi que le Parlement européen pour le devenir des droits de plantation qui se jouera fin 2012.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ils sont 5 jeunes Suédois et 7 jeunes Lozériens âgés de 16 à 25 ans. Ils travaillent depuis un an sur un projet européen autour d'actions de découverte de la culture de l'autre. Ludovic Terrol de 48FM Mende est allé les rencontrer pour en savoir davantage.
C'est un projet porté par l'association Savoir-faire et Découverte en partenariat avec le GAL Terre de Vie de Lozère et le GAL Lapland, où les Lozériens et Suédois sont partis interviewer les habitants de Lozère et de Laponie afin de monter un film d'une cinquantaine de minutes pour montrer qu'il existe en milieu rural des possibilités de créer, de s'installer, de vivre sur des métiers d'avenir. Les explications d'Arnaud Trollet, le directeur de l'association Savoir-faire et Découverte.
C'est ça l'enjeu, c'est ça, il y a de la place pour des jeunes de 20, 25, 30, 35 ans pour créer et s'investir en milieu rural. Et donc la méthodologie qui a été utilisée pour montrer ça, pour simplement faire parler, parce que c'est un projet où on dit on va vous montrer ça. Et donc on a entraîné cette jeune reporter de 16 à 24 ans qui ont été sélectionnés suite à un appel à candidature. Et on les a formés à la vidéo, au reportage. Et ensuite, ils sont partis sur le terrain avec un producteur vidéo. Ils sont partis à la rencontre des jeunes qui s'étaient installés en milieu rural, en Lozère et en Laponie.
Ainsi, les reporters sont allés à la rencontre de jeunes agriculteurs, musiciens ou encore créateurs ou éditeurs. Sophie, lozérienne, âgée de 25 ans, a participé au projet.
Je suis venue découvrir un peu comment on portait un projet dans le milieu rural, comment ça se passait, découvrir un peu aussi qui faisait ça sur le territoire, découvrir comment on faisait ailleurs et voir les motivations, les étapes et puis l'intégration du projet dans le territoire. Pour moi, ma propre expérience, pour pouvoir peut-être bâtir mon projet après. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'énergie dégagée par chacun de ceux qu'on a interviewés. Une énergie, une motivation de dingue. Belle à voir et belle à ressentir aussi, qui est partagée en tout cas. Celle-ci est saine, belle et agréable à entendre en tout cas.
Eyehu, jeune Suédois de 21 ans qui vit en Laponie, a maintenant envie de créer sa propre entreprise.
Ça a été très agréable de participer à ce projet parce qu'ils ont pu rencontrer des personnes intéressantes, découvrir des lieux incroyables au niveau des paysages en Lozère et participer à cette expérience. Il s'est rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup de similarités entre la Laponie et la Lozère, notamment à cause des personnes qui partent, qui quittent le département pour aller s'installer soit dans des plus grandes villes, soit ailleurs, et qui font ensuite soit le choix de revenir, soit de venir tout simplement s'installer dans le département pour y créer leur propre activité. Et donc ça, c'est ce qui l'a le plus marqué dans le projet, c'est cette ressemblance au niveau des porteurs de projets et de tout ce qui touche à l'accueil et au maintien de population dans les territoires. Il s'est rendu compte lui-même que de voir ces reportages, ça lui donnait envie de se lancer lui aussi dans la création d'activités, qu'il avait déjà eu des idées, mais qu'il n'avait jamais forcément eu le courage de le faire, et qu'il espérait que ça allait avoir le même impact et les mêmes répercussions sur les potentiels créateurs d'activités qui verraient le film et qui trouveraient là le courage de se lancer à leur tour dans ce type d'aventure.
« I can do this. I want to do this. I can do this. »
C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48 FM Mende. D'un côté, Moret-Sargues, petite commune d'environ 150 habitants située dans le Gard, entre Alès et Nîmes, qui souhaite se développer. De l'autre, l'association Écohabiter 30, à la recherche de terrains pour mener à bien son projet d'écoquartier. Ces écoquartiers qui fleurissent un peu partout en France consistent en la construction d'habitations écologiques, mais aussi au respect d'une charte définie à l'avance par les futurs habitants du quartier. La rencontre entre cette municipalité et l'association s'est faite en 2009 et depuis, le projet avance malgré certaines contraintes. Une problématique qui concerne d'ailleurs l'urbanisation des petits villages en général, comme l'explique le maire de Moret-Sargues, Jean-François Berthier.
L'urbanisation, entre guillemets, de notre village, ça a été un point important sur lequel on a essayé d'agir dans la mesure de nos moyens. Là, il se trouve qu'il y avait un terrain urbanisable sur la commune d'un hectare qui était à la vente. C'est vrai que moi, quand j'ai écouté les membres de l'association, ça m'a paru intéressant. Il y avait ce terrain qui était disponible sur la commune, enfin qui était à la vente. Et le fait que ce groupe ait vraiment un projet de vie et une charte, veulent faire de la construction écologique en autopromotion, ça m'a paru intéressant. Et c'est vrai que tout de suite, le conseil a été intéressé par ce projet. Et donc, j'ai rencontré les membres de l'association en mairie, en leur disant ce qu'il en était, que ce terrain était en vente et qu'il y avait une possibilité. Voilà, ça a démarré comme ça. En 2009. On ne peut pas dire que j'avais vraiment, qu'on avait au niveau du conseil des connaissances particulières sur ce type d'habitat, d'éco-quartier, mais c'est vrai qu'on a en majorité une sensibilité, disons. Mais surtout, ce qui nous a intéressé dès le départ, c'était effectivement ce groupe qui avait un projet à nous proposer et qui avait une volonté de s'intégrer dans la vie du village, de créer vraiment de créer un centre de vie, quoi, hein. Donc c'est vraiment là-dessus que nous on s'est mobilisé au niveau du conseil.
Jean-François Berthier, le maire de Moret-Sargues dans le Gard, au micro de Rémi Goujon de Radio Escapade. Retour à présent dans ce carnet de région sur un festival lié au film d'animation, 7e du nom, le festival Voix d'étoiles qui s'est tenu dans l'Aude à Port-le-Cat la semaine dernière. Éric Boyer d'RCF Pays d'Aude.
Voix d'étoiles, le festival international des voix du cinéma d'animation, se tenait depuis mercredi et jusqu'à dimanche à Port-le-Cat. Au programme des films à voir, mais aussi des ateliers pour petits et grands. Écoutons Bernard Palacio, réalisateur au studio de dessin animé La Fabrique à Saint-Laurent-le-Minier, au-dessus de Montpellier. Il a proposé un atelier où il était possible de réaliser son mini dessin animé en une dizaine d'images.
On participe au festival Voix d'étoiles de Le Cat depuis la première année. Donc ça fait la septième deuxième année qu'on vient faire ce genre d'atelier tout public. On était plein, il y avait une trentaine de personnes là, mais on s'amuse bien, on fait des films, ça nous fait plaisir.
Vous disiez justement qu'il y a le jeu qui est en commun, que ce soit pour les adultes ou les enfants, c'est ça qui réunit tout le monde, c'est le jeu.
Voilà, le terme c'est ludique, parce que l'invention du dessin animé, qui était à la base des jeux optiques, des jouets pour les enfants, est une chose qui est un jeu. Et tout le monde peut s'amuser à partir de 5 ans jusqu'à 105 ans ou 150 ans. On peut s'amuser à faire du dessin animé. C'est facile.
Et comment vous voyez ici dans l'Aude cette initiative, ce festival? Vous participez depuis le début. Quelle vision vous avez?
Oh, c'est très très bien ça. Alors là, c'est très très bien parce qu'il y a réellement l'opportunité de faire quelque chose de culturel, c'est-à-dire d'apporter une technique simple, de s'amuser avec des enfants, des grands de tous les âges. Et c'est pas cher en plus les entrées. Je trouve cette initiative excellente.
Et ces ateliers étaient à 4 euros. Autre atelier très prisé durant ce festival Voix d'Étoile à Port-le-Cat, celui du doublage. Et c'est l'ingénieur du son et réalisateur sonore Ludovic Roca qui le proposait. Il nous explique comment il a procédé.
J'ai choisi une séquence des Aristochats qui contenait beaucoup de personnages à doubler. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un maximum de petites phrases pour que chaque participant ait un petit bout à faire. Voilà, et l'intérêt de l'atelier, c'est que les participants se retrouvent en situation de doubler comme un professionnel et s'aperçoivent que rapidement, on peut avoir sa voix à l'écran, dans le dessin animé, simplement en passant derrière le micro et en disant en synchronisation la phrase du personnage.
Il faut beaucoup de temps pour faire à peine 2 petites minutes et avec beaucoup de monde qui parle.
Et oui, parce que y a déjà savoir caler la voix, savoir donner l'intonation, trouver le tempo. Donc y a des ratés et puis au bout d'un moment, on y arrive toujours.
Et puis il y a le logiciel qui fait aussi des merveilles, des petits miracles.
Aujourd'hui, on a des logiciels informatiques qui nous permettent quand même de corriger beaucoup de choses, de recaler. Donc c'est pas comme avant où on coupait au ciseau les bandes magnétiques et on passait un temps infini et même on était bloqué par la technique. Hein. Y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Et là, aujourd'hui, l'outil informatique nous donne une vraie latitude de travail pour arriver à un résultat optimal.
Et au bout de 2 heures d'atelier, voici le résultat.
J'ai froid et je suis tout mouillé.
Quoi ?
Maman ?
Quoi ?
Maman ?
Quoi ?
Maman !
Chérie, mais ce n'est qu'une petite grenouille, mon amour.
Mais elle a une grande bouche comme un hippopotame.
Quoi ?
Oh, qu'est-ce que ça a le drôle ?
Voyons, chérie, restez là bien tranquillement. Je vais chercher Toulouse.
Toulouse ? Toulouse, où êtes-vous ?
Hey, dis donc, pourquoi tous ces hurlements, hein?
Pourquoi t'as pas répondu?
Maman, il était caché là tout le temps.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
La maman des poissons, elle est bien gentille.
Et puis enfin, juste avant de refermer ce carnet de région, parlons de la maman des poissons. Tel est le nom aussi d'un festival, de littérature jeunesse en l'occurrence, 9e du nom dans l'Hérault à Pézenas du 12 au 18 novembre prochain. Et chaque année, une thématique différente est développée. Françoise Morel, présidente de ce festival, répond aux questions des enfants d'un atelier radio qui s'est déroulé cette semaine à Radio Pays d'Hérault en partenariat avec l'association Laser de Montagnac.
Pourquoi avoir choisi le thème du voyage cette année ?
Chaque année, on change le thème du festival et on essaye de trouver un thème, un titre, quelque chose qui... Alors, on a eu une année, on a eu Grand Petit, une année, on a eu Liberté, c'était l'année dernière, peut-être vous vous en souvenez. Et puis, cette année, on a pensé au thème du voyage parce qu'on avait envie un petit peu d'explorer le monde, d'explorer des contrées plus lointaines et de voir ce que les auteurs et les illustrateurs avaient pu faire autour du thème du voyage. Donc tous les auteurs illustrateurs invités ont travaillé sur ce thème du voyage et nous font partager leurs livres sur ce thème-là. que...
Françoise Morel, avez-vous choisi les meilleurs auteurs?
Alors, on choisit souvent les auteurs que nous, on trouve les meilleurs. Mais on n'est pas forcément très objectif. C'est-à-dire que les auteurs qu'on invite à la Maman des Poissons, c'est des auteurs que nous, on a trouvés exceptionnels par la qualité de leur travail. Voilà, les livres qu'ils écrivent, etc. Alors, on a des très grands auteurs qui sont très, très reconnus, qui sont... des auteurs qu'on sait qui sont très importants. Il y en a qu'on essaye d'avoir depuis 2 ans, 3 ans, en particulier Zahu, que vous verrez le samedi matin, puisqu'il va faire quelque chose, qui est un illustrateur. Vous le verrez. Et ben ça, c'est un très, très grand monsieur de l'illustration, et ça fait au moins 3 ans qu'on a envie qu'il vienne à Pézenas, et cette année, on est très fiers de l'accueillir. Bon, mais après, on a aussi des jeunes auteurs, des jeunes illustrateurs qui sont moins connus, mais dont nous, on a envie de montrer la qualité de leur travail.
Françoise Morel, la présidente du festival La Maman des Poissons, répondait aux questions de plusieurs enfants, dont celle d'Axel et de Sarah. Par ailleurs, 15 auteurs de littérature jeunesse seront présents pour ce festival toute la semaine prochaine dans l'Hérault à Pézenas. Ce carnet de région est terminé. Je vous souhaite un agréable week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations régionales.